Le journal présenté par Stéphane Geneste.
Bonsoir à toutes et à tous. Le coronavirus inquiète de plus en plus. Pékin considère qu'il s'agit là de sa plus grande crise sanitaire depuis 1949. L'Italie est le pays le plus touché en Europe par ce virus. Plusieurs villes ont d'ailleurs été placées en quarantaine. Nous retrouverons notre correspondant en début de cette édition. En France aussi, le Covid-19 inquiète les autorités. Le ministre de la Santé a annoncé que le pays se préparait à faire face à une épidémie. Mais quelles mesures ont déjà été prises? Éléments de réponse avec un virologue. On connaît enfin les résultats des élections législatives en Iran. Sans grande surprise, ce sont les conservateurs qui sont les grands gagnants de ce scrutin, alors que le taux de participation de ce rendez-vous électoral est historiquement bas. Deuxième jour pour le Salon d'agriculture à Paris. Le gouvernement en a profité pour lancer une consultation publique. Son objectif, élaborer des propositions pour le futur et notamment le financement de la politique agricole commune. Nous entendrons Ilaria Casilo qui préside ce débat. Le coronavirus se propage et continue d'inquiéter partout dans le monde. Plusieurs pays ont commencé à prendre des mesures pour faire face à cette épidémie du Covid-19. Considéré par Pékin comme sa plus grande urgence sanitaire depuis 1949, le nouveau coronavirus a forcé la Corée du Sud à proclamer l'état d'alerte maximum. Le Pakistan a fermé sa frontière avec l'Iran et Kaboul a interdit temporairement les voyages entre l'Afghanistan et l'Iran afin d'empêcher la propagation du virus. En Europe, c'est l'Italie qui est principalement touchée. 3 morts à cause de la maladie ont été recensés et plus de 130 cas ont été comptabilisés dans le nord du pays. Entre autres, plusieurs matchs de football ont été supprimés aujourd'hui. Les autorités ont mis fin aux festivités du carnaval de Venise alors que l'événement devait s'achever mardi. Une dizaine de villes de Lombardie et de Vénétie ont été placées en quarantaine. Au total, ce sont près de 50 000 personnes qui sont priées de rester chez elles. Bruce de Galzin, vous êtes le correspondant de France Culture en Italie et les habitants se préparent à vivre des jours sans magasin, alors ils attendent devant les supermarchés.
Ils sont au moins une centaine. La file longe tout le grand magasin et tous portent un masque. L'image détonne, mais Chiara, qui attend pour faire quelques courses, est plutôt détendue.
Non, je viens prendre peu de choses et des choses nécessaires. Je ne suis pas inquiète. Ça me fait même un peu rire, parce qu'on a l'impression d'être dans un film de science-fiction.
Pierrot, lui, semble un peu moins rassuré. Ce retraité comprend très bien les mesures restrictives.
C'est le directeur qui fait rentrer les gens 10 par 10 et puis on fait ses courses et on sort pour éviter les rassemblements. C'est la règle que l'on nous a dit de suivre.
Le directeur compte en effet un à un ses clients et Davide s'étonne de cette foule qui se masse devant son supermarché.
Comme le village est fermé, qu'on ne peut pas entrer ni même le quitter ou venir d'autres villages, nous on a choisi de laisser le supermarché ouvert et tout le monde vient ici. Il y en a qui pensent peut-être que c'est la fin du monde, je ne sais pas. En tout cas, ils sont tous venus ici.
Le supermarché a fermé à 13h, mais demain, Davide a promis d'ouvrir toute la journée.
En France, les autorités prennent également très au sérieux le risque de transmission du coronavirus. Olivier Véran, le ministre de la Santé, précise que le pays se prépare à une possible épidémie et que l'apparition de nouveaux cas dans le pays est, je cite, « très probable ». Il prendra d'ailleurs la parole dans la soirée afin de faire un point sur la situation. Mais plusieurs mesures ont d'ores et déjà été prises, c'est ce que précise Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon et au Centre international de recherche en infectiologie.
Aujourd'hui, on a activé un plan qui s'appelle Orsan-REB, qui est en fait une organisation qui cherche à prioriser les actions à mener pour la prise en charge des patients si jamais ce nombre de patients devrait augmenter. Donc, on installe des capacités d'admission dans les hôpitaux. Les pouvoirs publics informent les professionnels de santé sur la prise en charge de ces patients, comment est-ce qu'il faut les gérer, quels sont les éléments cliniques à comprendre, de façon à ce que finalement, on puisse activer très rapidement, si jamais un foyer épidémique se mettait en place en France, qu'on puisse activer très rapidement des processus qui vont nous permettre d'éviter une diffusion massive et éventuellement de contrôler l'apparition de ce virus en France. Avec l'idée toujours d'essayer d'éteindre l'épidémie, ou si en tout cas on ne peut pas l'éteindre, de freiner sa diffusion de façon à ce que son impact ne soit pas trop important.
Bruno Lina au micro de Bernard Thomasson. Près de 48 heures après le début de la trêve partielle entre soldats américains et talibans, c'est Donald Trump qui s'est exprimé aujourd'hui. Le président des États-Unis a indiqué qu'il signerait de sa main un accord de paix si les négociations pour mettre fin à plus de 18 ans de guerre en Afghanistan aboutissent. En cas de signature de l'accord, des discussions inter-afghanes doivent s'ouvrir, alors que les talibans refusent depuis 18 ans de négocier avec le gouvernement de Kaboul, gouvernement qu'ils considèrent comme une marionnette de Washington. Au Maroc, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Casablanca cet après-midi. Le rassemblement était organisé par le Front Social Marocain, un collectif récemment créé. Il regroupe quatre partis de gauche ou encore des organisations syndicales. L'objectif de cette manifestation dans la capitale économique du Maroc était de dénoncer les inégalités sociales, de demander la libération des détenus politiques, mais aussi de lancer un appel pour une vraie démocratie. En Iran, on connaît les résultats des élections législatives qui se sont tenues vendredi. Ce sont les conservateurs qui ont remporté le scrutin. Les réformateurs, eux, en sont les grands perdants. Le taux de participation est quant à lui historiquement bas, 42%, le plus faible enregistré pour des élections de ce type depuis la proclamation de la République islamique de 1979. Un chiffre certes bas, mais acceptable malgré un contexte particulier, d'après le ministre de l'Intérieur, qui regrette les mauvaises conditions de la tenue de ce rendez-vous électoral. Les explications à Téhéran de Siavosh Ghazi.
C'est un véritable raz-de-marée des conservateurs qui vont contrôler plus de 220 des 290 sièges du Parlement, alors que les réformateurs auront moins de 20 députés. Quelques 35 indépendants ont également été élus, mais ils pourraient se ranger aux côtés de la majorité. Enfin, il y aura un second tour pour une quinzaine de sièges. À Téhéran, les conservateurs ont également remporté la totalité des 30 sièges de la capitale, qui avaient été remportés par les réformateurs il y a 4 ans. Selon le ministre de l'Intérieur, le taux de participation a été d'un peu plus de 42%, soit l'un des taux les plus bas au cours des 40 dernières années. Il a affirmé que les événements de ces derniers mois, notamment les troubles de novembre, après la hausse du prix de l'essence ou encore les informations sur la propagation du coronavirus, ont dissuadé certains électeurs d'aller voter. Avec tous ces événements, un tel taux est acceptable, a déclaré le ministre de l'Intérieur. La victoire des conservateurs est un coup dur pour le président Hassan Rouhani qui a basé depuis 6 ans sa politique sur le rapprochement avec l'Occident et sur l'accord nucléaire. Les conservateurs contrôlent déjà les autres organes du pouvoir et la fin du mandat du président Rouhani sera particulièrement difficile.
À Téhéran, Siavosh Ghazi. Le gouvernement britannique accuse les Européens de tarder à s'engager dans les négociations post-Brexit. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne le 31 janvier dernier, mais le Brexit reste pour le moment essentiellement formel. Il a ouvert une période de transition courant jusqu'à la fin de l'année qui doit permettre aux deux parties de s'accorder sur les conditions de leur future relation, notamment commerciale. Quelle transition écologique pour l'agriculture? Quels critères pour orienter les aides de la politique agricole commune? Quelles évolutions souhaitées dans le monde de l'élevage? Eh bien, ce sont quelques-unes de ces nombreuses questions auxquelles pourront répondre les citoyens à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 mai. Tout cela se déroule dans le cadre du débat Impactons, une consultation publique lancée par le gouvernement au deuxième jour du Salon de l'agriculture. Son but, élaborer les propositions que Paris présentera à Bruxelles pour arbitrer les choix dans les affectations des subventions agricoles. Dans la pratique, cette consultation sera un mélange du grand débat national et de la Convention citoyenne pour le climat, mais en plus petit, une trentaine de débats publics, une plateforme en ligne, une assemblée de 170 citoyens tirés au sort qui se réunira fin mars. Ilaria Casilo préside ce débat et pour elle, c'est l'occasion de créer une réflexion globale sur les questions agricoles.
Nous essayons de mettre en débat justement des populations qui habitent un milieu urbain, un milieu rural, comment se font les questions de cohabitation, de conflits d'usage. L'objectif, ce n'est pas de les opposer les uns aux autres, ni aux citoyens, de se remplacer aux agriculteurs, mais c'est bien de créer un cadre éclairé, organisé entre toutes les parties qui ont des choses à dire sur l'agriculture et sur la politique agricole commune. Ce sont des questions qui ont un impact sur l'environnement et des impacts socio-économiques majeurs, donc les citoyens ont le droit d'être informés et de pouvoir participer à ces décisions, donc il est important d'organiser ce type de démarche.
Il y a plusieurs citoyens qui ne savent pas forcément comment marche une exploitation agricole, comment fonctionne le système agricole, comment est-ce que vous comptez résoudre ce problème de manque de connaissances?
Déjà, nous avons produit tout un tas de documents qui permet aux citoyens qui ne connaissent pas les questions agricoles de pouvoir se forger un avis, apprendre comment marche le système des aides, qu'est-ce que c'est la PAC. Nous donnons des informations, un minimum d'informations pour permettre à tout le monde de comprendre les questions agricoles et pouvoir s'exprimer dessus de manière un peu plus éclairée.
Ilaria Casilo au micro France Culture de Diane Berger. La météo de demain matin, des nuages un peu partout sur le pays, la pointe de la Manche, les Pyrénées et le Languedoc seront épargnés par le ciel couvert et bénéficieront de très belles éclaircies. Les températures seront encore très douces, pour cette période de l'année. Prévoyez 11 degrés à Cherbourg et Bar-le-Duc, 12 à Nantes et Lille, 14 degrés à Paris, 15 à Grenoble et à Nice. La maximale sera de 21 degrés à Perpignan. 18h et tout pile 10 minutes sur France Culture. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.